19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tous les soirs, chaque soir, quotidiennement, ici même, vous le savez, de 19h à 20h, c'est les informés, c'est tout simple, hein, les amis auditeurs. Commenter, analyser, mais surtout, décrypter l'actualité. Voilà, alors ce que je vous propose aujourd'hui, alors trois sujets, d'abord l'invité pour parler, vous savez, d'un événement qui se déroule le vendredi prochain, avec justement Madame Sangar, qui sera avec nous. Puis à 19h30, le Quoi de Neuf avec Faïza Ben Mohamed, la journaliste indépendante qui viendra elle-même nous livrer sa carte blanche et sa signature. Et les trois sujets, le face-à-face. Alors, la cote de popularité de Macron qui s'effrite peu. Tiens, que veut nous faire dire ce sondage? Nous irons regarder aussi la levée des restrictions sanitaires. Port du masque, jauge, télétravail, tout ce qui va changer. Changer notre vie désormais à partir de mercredi prochain. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre. Alors, on va tâcher, évidemment, d'apporter un éclairage à tout cela. Ensuite, après, nous regarderons, vous savez, eh bien, Mélenchon contre la police. La charge de Mélenchon, j'ai envie de dire, contre la police. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce des attaques haineuses et systématiques. La police a déjà donné, évidemment, son point de vue. Et on écoutera, on reviendra sur l'extrait. Et puis, vous savez, ce document qui vient de Libération chez Cyril Hanouna, Éric Zemmour est comme chez lui. Alors, l'animateur ne touche pas à mon poste sur C8, la chaîne de Bolloré, accorde un temps d'antenne écrasant aux candidats d'extrême droite et ses idées. 45% les amis hein, pour Zemmour, 22% pour Macron, Le Pen 7%, à peine 3% pour Hidalgo. Alors le reste, j'en parle même pas. Alors, on essaiera d'apporter peut-être un décryptage sur le fait qu'Hanouna accorde un peu plus, ou est-ce que Hanouna est le marchepied d'Éric Zemmour sur C8. Voilà le programme qui vous attend au 01 53 48 3000, c'est parti.
Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Parti tout de suite pour l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
L'interview et l'invité du jour, vous savez, on va parler de ce fameux repère durable. Ça se passe vendredi prochain. Un événement à ne pas manquer, c'est avec Jamila Sangar. Bonjour, Jamila Sangar.
Oui, bonsoir Adil.
Vous êtes la fondatrice d'un concept store qui s'appelle Janisa Concept Store. En quelques mots, rappelons, parce que vous l'aviez dit il y a quelques mois sur notre antenne ici, dans Les Informés, rappelez-nous le concept de votre, Janisa Concept Store.
Alors le concept en fait c'est de promouvoir une consommation éthique et responsable. Donc le principe étant de mettre en avant des produits de marques de créateurs en fait qui fabriquent de manière responsable dans différentes catégories de produits.
Justement c'est ce qui m'intéresse moi, c'est cette histoire de comment dirais-je, d'éco-responsable. Hein. Pour promouvoir l'organisation, donc vous avez décidé, et justement, d'une forme un peu d'événement, de réunir, comment on appelle ça, un vide-grenier, c'est ça?
Non, alors en fait, il y a deux, il y a, donc c'est l'idée. L'idée en fait.
Ou un vide-dressing plutôt.
Voilà, exactement, tout à fait. En fait, donc l'espace est divisé en deux parties, avec une partie qui met en avant des marques de créateurs, des professionnels, donc des exposants, et une partie vide-dressing qu'on a ouvert en fait aux particuliers, des personnes comme vous et moi qui souhaiteraient vider nos dressings et se faire un peu d'argent. Voilà.
Alors ça va de partout, hein, de la mode aux accessoires, aux produits déco, au lifestyle, exactement, aux produits beauté, aux produits alimentaires. C'est ça, Jamila Sangar?
Tout à fait, c'est exactement ça. Et pour ce faire, du coup, j'ai décidé, en fait, dans la continuité du premier événement que j'avais organisé, c'est de m'associer avec deux entrepreneuses, donc Victoria Chambreuil, qui est la fondatrice de Tutti Frutti, Vide Dressing, et de Belinda Vituni, qui, elle, est la fondatrice de Ara Agency. Donc voilà, c'est aussi l'idée de mettre en avant le travail de femmes entrepreneuses, de s'unir et de travailler en commun pour monter justement ce type d'événement.
Votre événement, c'est se passe vendredi, c'est à quelle heure et comment va se dérouler cet événement justement, Jamila?
Alors donc il démarre vendredi de 16h à 20h avec une soirée de lancement. Donc vous êtes tous conviés pour venir boire un verre avec nous et participer à cet événement dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et donc le samedi et le dimanche de 11h à 20h où vous pourrez faire votre shopping dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Donc les trois jours accompagnés de musique, d'un DJ et en plus de ça d'ateliers do it yourself.
En tout cas, ça donne envie, hein, Jamila Sanga. Oui. Hein. Ça donne envie quand vous racontez tout ça. Ça se passe où précisément?
Alors 76 rue Saint-Maur dans le 11e à Paris.
Rue Saint-Maur, 71, rue Saint-Maur, c'est ça?
76
rue Saint-Maur à Paris. Donc dans un événement, si j'ai bien compris, un événement à pas manquer donc. Hein.
Exactement, c'est incontournable.
C'est exclusivement féminin ou tout le monde a accès?
Alors,
la question, parce que c'est vrai quand on regarde les produits, c'est plutôt féminin.
Alors c'est féminin, cependant vous pouvez très bien venir vous Adil pour offrir quelque chose à madame.
Vous avez le droit à une sonnette, voilà, c'est comme ça.
Voilà.
C'est pas fou.
Donc non, c'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde, donc voilà, le rendez-vous est pris. Écoutez, en tout cas, merci Jamila Sangar, vous êtes la fondatrice de Janisa Concept Store, et on l'aura compris, donc un événement à ne pas manquer, ce vendredi, donc précisément. Merci Jamila Sangar.
Merci Adil, bonne soirée.
Merci, très bonne soirée à vous, 19h06, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face est avec, évidemment, deux débatteurs, influenceurs qui sont avec nous ici sur le plateau. Et je veux parler de le conseiller régional donc, pour les Verts, Europe Écologie Les Verts. Il s'appelle donc Philippe Nadji Bouriaki. Bonjour, mon cher Philippe.
Bonjour, Adil. Tu
Comment
vas m'attirer des problèmes.
Pourquoi je vais avoir des problèmes?
Pour l'instant, on dit juste conseiller régional écologiste.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
On est toujours en attente. Suspense, le feuilleton dure toujours.
Il
y a eu un vote, il y a 8 jours, on n'a toujours pas la décision. Donc, on n'a rien envié aux dictatures des autres pays, tout va bien.
Il est auteur, il est comédien, ancien commandant de police, il s'appelle Jean-Pierre Colombier. Bonjour.
Bonsoir, Adil, bonsoir.
Comment ça va?
Ben, ça va bien, je suis un peu frais dehors, mais ça va ici, il fait bon, il fait chaud.
Il fait bon là,
et la lumière a été refaite, tout va très bien.
Chaleureux.
Ah ouais, extraordinaire.
Allez, si vous voulez bien, messieurs, et notamment le 01-53-48-3000, les auditeurs peuvent intervenir à tout moment, je vous le rappelle. Tiens, la popularité du chef de l'État, il n'est pas candidat encore, hein. A beau être supérieur à celle des deux précédeurs, donc des deux prédécesseurs, pardon, à la même époque, eh bien, on a retenu quand même une chose, c'est que celle de Macron, elle s'effrite un peu. Est-ce que tout peut changer, tout peut basculer, Jean-Pierre Colombiès?
Bien sûr que tout peut changer, tout peut basculer, je ne sais pas, mais tout
peut
changer.
Pourtant, la Macronie ne doute jamais. Hein.
Ah, la Macronie ne doute pas, ça c'est clair. Oui, quand on discute avec ces chauds partisans, on est face à des certitudes absolument inébranlables. Pour autant, on n'est pas encore à la veille de l'élection fatidique, donc il peut se passer plein de choses en 70 jours. Donc c'est pas surprenant que les sondages, je dirais, fluctuent. C'est tout à fait normal. Et peut-être qu'ils évolueront encore plus lorsqu'on parlera des vraies choses, des choses qui fâchent, notamment sur le bilan. Enfin, qui fâchent ou qui
réjouissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sent pas bon?
En tout cas,
c'est ce qui va nous faire dire le sondage.
Ça voudra dire que, tout simplement, à un moment donné, il faudra parler du bilan, du vrai.
Du vrai bilan.
Du bilan et des projections.
Effectivement.
Effectivement, jusqu'à présent, il était couvert grâce ou à cause. Attention, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont des gens aujourd'hui en réa et toutes celles et tous ceux qui ont perdu quelqu'un. On en a tous autour de nous. On a perdu des proches. Mais cette pandémie, cette crise sanitaire a mis sous cloche tous les autres sujets. Et d'ailleurs, il aurait été indécent de.
Mais là, il chute drastiquement. C'est quoi qui l'entache finalement?
Il y a un effet.
C'est le pass vaccinal. C'est le fait d'avoir dit j'emmerde, ce côté
désinvolte, ce côté supérieur au peuple. Faut savoir et faut rappeler à notre cher président que
en gros c'est la polémique, ce que vous dites, Philippe.
C'est ça.
La polémique des non vaccinés.
La polémique, mais
c'est ça.
Non, je crois que c'est une accumulation d'un tas de choses.
Ah oui, d'accord.
Et effectivement, comme il était au-dessus de la mêlée, et on en a eu un débat tout à l'heure en off. Moi, je considère que c'est quelqu'un de très intelligent et qui a été assez fin, qui a su mettre le mot où il fallait pour pouvoir buzzer, surtout anesthésier et nous diviser les uns les autres.
C'est le terme qui fait mal. On n'anesthésie pas un peuple. On
n'anesthésie
pas une opinion publique.
Bien sûr.
À un moment donné, il faut aller au-delà des mots convenus, des formules ampoulées, d'une forme de théâtralité de mon point de vue, de très mauvais goût, parfois. Hein, je me souviens quand même des prises de parole lors de certaines cérémonies où on assiste à un décalage total entre ce qu'il exprime et puis la réalité des choses. Donc, à un moment donné, il faut...
Oui, mais c'est fait... Philippe Nadjiboyaki. À sa décharge, il sait faire les gestes ou les mots qu'il faut. Regardez, ouais. Il y a quelques jours, il a reçu les familles de Pieds Noirs à l'aube du 60e anniversaire qui a laissé beaucoup de traces. Hein. Rappelez-vous, en début d'année scolaire, c'était les familles d'Arki. Et puis le 16 octobre, sur le pont de Beson, il fait un geste. Donc il souffle le chaud et le froid, ça déstabilise un petit peu tout le monde.
Justement, c'est bien ça qu'on le reproche.
C'est le fameux en même temps.
Moi, c'est ça qui me dérange. C'est ce côté couteau suisse politique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'interlocuteur du jour, il va changer d'un point de vue. Tu aurais pu rappeler le discours qu'il a tenu aussi en Algérie en qualifiant la colonisation française de crime contre l'humanité. Mm-hmm. Je crois qu'il ne connaît absolument pas le sens profond de ce terme, enfin de ce qu'il a employé. C'est très grave. Pour moi, c'est complètement décalé.
Et en fin de compte, au contraire, moi j'ai trouvé que c'était très intelligent et il en a touché beaucoup d'entre nous.
Non, mais
sincèrement, ça n'a pas été suivi des faits.
C'est pas ça un crime contre l'humanité, enfin de mon point de vue.
Ah bah, après, un crime contre l'humanité, c'est un crime contre une population, un génocide de masse. On peut pas dire qu'en Algérie il n'y a pas eu de génocide de masse. Il y a eu.
Moi, je mets un joker.
D'accord.
Je pense qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre qui n'a pas disparu.
Non. Il y avait un empire colonial qui a séquestré des terres, qui a violé, qui a tué, qui a meurtri des villages, des familles. Non, on peut pas mettre un joker là-dessus. Non.
Non, j'ai pas dit qu'on fallait mettre un joker sur la guerre. J'ai dit sur le.
Non, c'est pas la guerre. La guerre, c'est quand deux pays s'affrontent pour prendre les richesses de l'un de l'autre. Là, c'est pas le cas. Là, on est arrivé.
Le génocide, c'est une élimination.
Je vous parle de génocide.
Oui, c'est ce que je dis. Le mot exact. Non, quand vous avez une population de 20 millions qui se retrouve à 5 millions, ça s'appelle un génocide.
De 20 millions à 5 millions.
De 20 millions à 5 millions.
Les Français, la France aurait tué 15 millions d'Algériens.
Aurait assassiné, tué, déporté, puisqu'on les a envoyés pour certains pour travailler sur des camps, sur les autres colonies françaises, envoyés à la guerre en Indochine, envoyés à la guerre de 14-18, envoyés à la guerre 39-45. Ça, on parle de 15 millions de personnes. Vision, oui. Sur 152 ans, certes, sur 32 ans. 132
en tout cas, on parle plutôt de colonisation de l'Algérie qui a été un crime contre l'humanité.
Là-dessus, je suis d'accord avec lui.
Ça, c'est le discours, je dirais.
C'est acquis, c'est validé.
Qu'on utilise régulièrement.
Ben, moi, je suis un amoureux de l'histoire. J'attache une autre importance au fait. Au fait qu'il soit.
Crime contre l'humanité.
Je ne peux pas être d'accord.
Crime contre l'humanité.
On peut parler du général Bougeot qui enfumait les grottes.
Et du massacre de Sétif aussi.
Bien sûr. Oui, ça sent.
Je laisserai le soin aussi aux auditeurs. Génocide, que faut-il dire ? Crime contre l'humanité.
Moi, c'est un terme qui n'est pas approprié.
Génocide, terme pas approprié selon Jean-Pierre Colombiès. Philippe Nadjiboyaki qui parle plutôt de génocide.
Qui ne signifie pas que ça existe.
Absolument. Les historiens, eux, parlent d'une colonisation de l'Algérie avec un crime contre l'humanité. 01 53 48 3000. Venez donc évidemment apporter votre point de vue.
Enfin, il n'était pas parti là-dessus.
Et puis, non, bien sûr.
Mais c'est en parlant qu'en Algérie, quand il était candidat en 2017.
J'ai envie de vous dire, avant de lancer la première pub et en attendant nos auditeurs, est-ce que c'est une alerte, ce sondage? C'est une sérieuse, pas une alerte.
Bien sûr.
Une sérieuse alerte.
Bien sûr.
Pour Emmanuel Macron.
Bien sûr.
Il perd, vous savez combien il perd?
Non.
4 points.
J'ai presque envie de dire tant mieux. Et qu'enfin on parle de politique, tout simplement, et qu'on arrête d'être dans le compte à soi, l'autosatisfaction permanente. La politique, c'est ça. La politique n'a rien d'acquis.
Donc il y a de quoi s'inquiéter.
Pour lui, en plus, Adil, il y a quelque chose de clair. Il y a un électorat qui est friable, qui peut basculer d'un camp à l'autre assez rapidement. On voit que l'électorat de droite de Macron, il est plutôt Pécresse compatible. On voit qu'il y a un électorat d'extrême droite de chez Marine Le Pen, qui est maintenant devenu modéré par rapport à Zemmour, ce qui est complètement hallucinant. Non, mais sérieusement, il y a deux ans, tu dis ça, on dit qu'est-ce que tu racontes. Eh ben, il est plutôt proche de Ciotti. Ciotti fait le bon soldat pour Valérie Pécresse. Je pense que Valérie Pécresse va créer la surprise.
On a posé la question justement dans les sondages. Êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron comme président de la République? Total mécontent, vous savez combien de pourcentage? 60.
C'est énorme.
C'est énorme. 37, total satisfait.
Sans oublier 60% d'abstention. Qui peut nous réserver des surprises.
Absolument. Donc il y a de quoi s'inquiéter.
Bien sûr, je m'inquiéterais énormément. Bon. Puis je m'inquiéterais, mais d'ailleurs on voit bien les attaques d'Attal et du porte-parole du gouvernement, le ministre Gabriel Attal, qui sont orientés uniquement sur Valérie Pécresse. C'est sa cible numéro une aujourd'hui.
Eh bien je laisserai le soin aussi partout en France. Je voudrais vous entendre, 01 53 48 3000, notamment sur ce sondage qui en dit beaucoup concernant donc l'effondrement d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous nous faire dire, justement? Est-ce qu'on nous prépare à quelque chose, évidemment, durant ces élections, à 70 jours des élections? On marque la première pause pub et on se retrouve tout de suite après, dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 9h19 et le débat continue avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de police, justement auteur, comédien. Rappelez-nous, tiens, votre pièce.
Le testament d'un communard qui se joue au Darius Milhaud tous les samedis soirs à 21h15.
Il faut aller le voir.
J'espère.
Effectivement. Non, mais on fait un peu votre pub.
C'est une normal. Histoire humaine, en tout cas. C'est une
le conseiller
humaine.
Régional, donc, il faut plus dire, faut juger, je dis écolo, c'est tout.
Pour l'instant, écolo.
Voilà,
pour
écolo.
L'instant, mais ça devrait changer.
Philippe Nadji-Bouriaki. Allez, on va s'intéresser au second sujet, notamment, je voudrais entendre nos auditeurs aussi au 01 53 48 3000. Alors, ce qui va changer un peu, la levée des restrictions sanitaires, est-ce que c'est un peu... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous baillez souvent, là?
Non, mais j'ai peut-être faim, c'est peut-être ça.
Qu'est-ce que vous êtes fatigué ou quoi?
Non. Alors, quand on baille, c'est soit on a faim, soit on est fatigué.
Ouais.
Là, il y a peut-être même les deux.
Ou alors angoissé.
Non, je suis complètement serein.
Ouais. Bon.
Ah non, complètement serein.
Non, mais quand on, bon. On baille souvent quand on est un peu stressé.
Non, je suis passé par une période de stress difficile à me connaître.
On baille souvent.
Ouais, je baillais. Ouais, c'est... Oui, c'est vrai.
Ah, mais c'est vrai, c'est vous
vrai.
Dites
c'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Ouais.
Mais là, maintenant, je suis vraiment, vraiment hyper serein.
Bon, il faut le nourrir. Giovanni, notre réalisateur, donnez-lui un peu de sucre, là. On va le doper, parce que sinon, on va le perdre. Hein? On va lui donner un verre de coca, un verre d'origine. On va le perdre, je vous jure, on va le perdre. Je vous jure, là, il va tomber par terre, il va nous faire un malaise. Il faut faire vite. Hein? Ramenez-lui un verre d'Orangina,
un
ou de
bon
coca.
Thé à la menthe. On est à Beurre FM. Si je n'ai pas mon thé à la menthe, je ne vais pas être
voilà,
bien.
On va vous l'offrir, le thé, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que ce n'est pas le début de la fin? Jean-Pierre Colombiès.
De.
Je parle de des restrictions sanitaires qui nous attendent.
J'espère.
Et puis, port du masque, jauge, télétravail, tout ce qui va changer dès demain. Le début de la fin ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est reparti dans quelques mois encore parce qu'il y a les élections?
Il y a un peu de tout, je pense. Il y a nécessairement une arrière-pensée politique derrière
qu'est-ce
tout ça aussi,
angoisse,
c'est évident. C'est non, ça ne m'angoisse pas.
Si, vous alliez lâcher le méo. Je l'ai entendu.
Ce qui m'angoisse, c'est ce qu'on fait supporter à cette population depuis 2 ans. Alors, bien sûr, comme ça a été dit, il y a eu des décès, il y a eu des malades, c'est évident. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur la comptabilité des décès, puisqu'on a comptabilisé beaucoup de monde de morts du Covid, alors que parfois les gens étaient morts avec le Covid et non pas du Covid. Ce qui est une nuance qui mérite quand même d'être soulevée. J'ai poussé ici même, et ça je vous en remercie à Beurre FM, des coups de gueule sur le traitement que l'on faisait subir et que l'on fait toujours subir aux enfants dans les écoles primaires, qui pour moi est absolument scandaleux. Donc ce à quoi on assiste, c'est quoi? Je l'avais prédit aussi que à l'approche de l'élection cruciale, il allait y avoir une libéralisation pour qu'apparaisse...
Vous m'aviez alerté,
donné,
c'est vrai.
Mais oui, pour qu'à un moment donné, Macron apparaisse comme le sauveur de la patrie. Mais moi, je suis désolé, ce à quoi on assiste est complètement loufoque. Des restrictions qui n'ont
c'est
aucun
loufoque,
sens.
C'est loufoque,
oui,
c'est vrai.
Enfin, si on est assis,
on met les
si
jours,
on est assis,
ouais.
On ne craint rien. Si on est debout, il faut être masqué.
On enlève les masques uniquement maintenant, désormais.
Il y a du monde, pas il y a du... Enfin, non, mais...
Désormais, le port du masque ne sera plus obligatoire.
Non, mais c'est un
en extérieur.
Oui, non, mais c'est presque un sketch. Faut arrêter, faut qu'on apprenne à vivre avec ça.
Tout plus, simplement. Plus de jauge pour les lieux de spectacle, les lieux de vie, etc. Et
ça m'arrange.
Philippe Nadji-Bouriaki.
Effectivement.
C'est le début de la fin?
Merci. Non, le début de la fin, non.
Non.
Faut apprendre à vivre avec... Avec ça, il va y avoir des variants, comme on l'avait dit ici. Si on lève pas les brevets et qu'on vaccine le reste de la planète.
Ah, merci Giovanni. Merci voilà votre thé à la menthe.
Extraordinaire.
Voilà, on va le doper notre Philippe Nadji-Bouriaki. Thé à la menthe. C'est le mec qu'on va le doper. Il va être surexcité. Voilà, exactement. Merci.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on vaccine pas le reste du monde, si on permet pas au reste du monde qui a pas les moyens de se vacciner gratuitement, on va y avoir de nouveaux variants, on va se retrouver tous les 6 mois, tous les 7 mois au moment saisonnier de la grippe dite traditionnelle.
On
va revivre ça, à nouveau les masques, etc. Cette situation d'angoisse permanente qui nous pèse au-dessus de la tête, ça offre une bouffée de libération. On va rentrer dans un moment de décrue, normalement sur les cas de contamination. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont fanfaronner, qui vont dire c'est grâce à notre politique.
Exactement.
Du pass sanitaire puis du pass vaccinal qui a obligé c'est une vaccination déguisée. D'ailleurs, je le redis, l'OMS ainsi que le conseil scientifique ne n'est pas favorable à une vaccination obligatoire. Je suis vacciné, j'ai 3 doses. Mon fils a ses 2 doses, parce qu'il a moins de 16 ans. On arrive à un moment où on a besoin de se retrouver, on a besoin d'avoir ce lien. lien social et ça a complètement bouleversé les gens.
Est-ce que ces assouplissements justement vont aider les gens à mieux vivre?
Non, mais il faut arrêter de faire.
Faut arrêter de faire paniquer la population.
Il faut arrêter de faire paniquer la population, comme on entend Castex qui dans la même phrase fait succéder deux mots qui sont totalement antinomiques, comme quoi le variant Omicron est extrêmement dangereux, mais moins létal. Donc, attends, sur quelle planète on est?
Mais je voudrais entendre l'avis de nos auditeurs.
Et vous avez Martin Hirsch qui ose dire une chose.
01 53 48 3000, je vous attends.
Scandaleuse la déclaration de Martin Hirsch, qui est pas vieille, qui dit qu'il faut arrêter de soigner les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais sur quelle planète?
Il n'a pas dit ça.
Non, exactement. Ce qu'il a dit est aussi scandaleux que ce que tu viens de dire. Il a dit, c'est à eux de payer leurs frais, etc.
Oui, mais ça veut dire quoi? Justement,
c'est ça qu'il a dit.
La société ne paye.
01 53 48 3000. Je vous attends, chers amis auditeurs.
Martin Hirsch, c'est clair. Pour ça, ça va pas. C'est honteux, c'est scandaleux.
Parce que justement, il est le symptôme visible d'une dynamique gouvernementale depuis de nombreuses années, depuis 4-5 ans maintenant, où on peut tout se permettre et dire tout et n'importe quoi. Et
Mais c'est le problème lorsqu'on gouverne avec les sondages, on balance des trucs, on voit comment ça prend, est-ce que ça mord, est-ce que ça mord pas, est-ce qu'il y a une grogne. Alors rappelez-vous les annonces qu'ils nous faisaient, ne serait-ce que pour la vaccination. Alors au début, c'est les plus de 60 ans, donc tu regardes la population comment
réagit. Comment vous le percevez ça? Terminer le port du masque à l'extérieur? Fini, on ne pourra plus porter le masque à l'extérieur.
Je ne le portais pas.
Fini les jauges dans les lieux recevant du public. Le télétravail deviendra plus obligatoire.
Le problème, c'est de l'incohérence. Le problème, c'est qu'on nage dans plein d'incohérences depuis deux ans. C'est n'importe quoi. C'est un coup blanc, c'est un coup noir, et ça déstabilise totalement la société, ça la radicalise, les gens sont
d'une
agressivité
aussi.
Mais hallucinée, et on n'a pas le droit de stigmatiser une population qui n'est pas vaccinée, tout
simplement. Vous trouvez qu'on la stigmatise, la population?
Excuse-moi, c'est ce qui a été dit.
On la met quand même à l'index, à l'écart du reste de la société, on la montre du doigt, et donc toutes celles et tous ceux qui veulent avoir la liberté disent à un moment donné... Tu sais, quand Macron a dit « je vais les emmerder », c'est ce que j'avais dit. Moi, j'ai entendu ça dans des discussions au Balto, au café. « Ouais, ils nous font chier, nous, on est vaccinés, pourquoi ils ne se vaccinent pas? J'ai envie de retrouver ma liberté. »
Exactement.
Quand tu prives quelqu'un de liberté, tu le rends fou. La prison, par exemple, n'améliore pas la situation des gens. Elle l'aggrave. Donc, c'est-à-dire qu'il faut repenser le système pénitentiaire d'une autre manière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les coupables ou responsables de crimes ou de délits ne soient pas sanctionnés et ne réparent pas. Je dis juste qu'il faut peut-être... Si le truc que tu fais, il fonctionne pas, c'est que peut-être il faut faire autre chose.
Allez, direction Lyon.
Lyon. Très belle ville,
Lyon.
D'ailleurs, c'est là où Yannick Jadot a présenté son programme.
C'est vrai. Ouais. Là, il fait la pub, hein.
Bah ouais, c'est mon candidat.
On va accueillir Auria. Bonsoir, Auria.
Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir, bienvenue. Comment ça va, ma chère Auria?
Et ça va. Ravi de vous écouter encore ce soir en rentrant du travail.
Ah là là, quel plaisir.
Oh là là. Eh bien, écoutez, tous les mêmes débats, les mêmes questions, les mêmes
suggestions,
les mêmes avis, les mêmes contre-avis. Oh là là. De Covid, ils en auraient fait dire des choses. Hein.
Oui. Oui. Ouais, vous en pensez quoi, vous, Ria? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, justement?
Moi, je dis que on ne sait même plus quoi penser. Moi, je suis un petit mouton, vous me direz. Voilà, vacciné, bien vacciné. Pas de Covid depuis le début. Ah, bah, savoir pourquoi. Mais voilà. Je suis le jeu des politiques, le jeu des médecins, le jeu de tout le monde.
Ouais.
On verra bien où ça va nous mener, tout cela.
J'ai le sentiment que vous êtes un peu saoulé par tout ça.
Et les résignés. Hein.
Les résignés.
Résigné. Pas résigné, c'est.
C'est Philippe Nedji qui vous dit résigné, oui.
Ouais, résigné, oui, la résilience, effectivement. Je pense que c'est un combat de tous les jours. Hein. On est dans une optique d'ouverture, de fermeture, d'engagement, de non-engagement. Vous savez, les grandes phrases, les grands mots, et puis il n'y a rien derrière. Comme d'habitude.
Auria, c'est tout à fait le principe de l'ascenseur émotionnel. Et à la fin, on finit par ne plus lever les bras, se battre et accepter. Et quand on nous donne une bouffée, entre guillemets, d'oxygène, on est carrément heureux de l'avoir. Et ça devient carrément... Alors, attention, je pèse mes mots, je voudrais manquer de respect à personne, mais on n'est pas loin du syndrome de Stockholm.
Oui.
Mm-hmm. Merci. Ouais, c'est ce que je voulais dire, Jean-Pierre.
Je confirme ce que vient de dire notre
Philippe Djibouyaki, conseiller régional.
Exactement. Non, je confirme. On est pleinement dans la manipulation de l'opinion publique. C'est pas nouveau, hein. Hannah Arendt le décrit parfaitement dans un livre qui s'appelle « Violence et politique ». On est exactement dans ce contexte de démultiplication d'un discours politique qui devient inaudible à la fin. On ne sait plus, on mélange tellement les informations contradictoires que l'opinion publique est totalement paumée. Et puis, à un moment donné, se rattacher à une parole politique supérieure comme étant celle du Messie.
Merci Aurélien pour votre fidélité.
Merci Aurélien.
Ça nous touche.
Mais je vous en prie.
Continuez à nous écouter, c'est une très bonne chose. Les informer tous les soirs, 19h-20h. Tiens, on va remonter. On va remonter sur Paris. On était à Lyon.
Ouais.
Oui. Il a du mal à suivre,
Jean-Pierre. On a pris la A7. Ouais,
Fatima, bonsoir.
Je connais bien. Mon premier mariage était à Lyon.
Votre premier mariage était à Lyon ? Donc vous gardez un beau souvenir, non ?
De Lyon, oui.
Oui, de Lyon, j'aime bien. Fatima, bonsoir. Comment ça va, Fatima ?
Merci, ça va, merci. Et vous, ça va ? Ça va, merci.
Très bien. On vous écoute, ma chère Fatima.
Merci. C'est pour parler un petit peu, un petit, très 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 petit résumé de la colonisation.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Vous faisiez référence à l'échange tout à l'heure qu'ont eu nos débatteurs. On vous écoute.
Voilà. Il y a eu des massacres collectifs. Il y a eu de l'enfumage. Il y a eu l'essai nucléaire en Sahara. Jusqu'à maintenant, les habitants, c'est-à-dire ils sont touchés par le cancer. Une population très touchée par le cancer à cause de ça. Ils ont divisé le peuple algérien avant qu'il rentre, avant qu'il le colonialise. L'Algérie, les Algériens, ils n'étaient pas divisés. On vivait en paix. Voilà, c'est vrai que, voilà, en paix, tout simplement. Il n'y a eu pas de conflits comme ça, comme maintenant. Et tout ça, c'est.
Et jusqu'à
maintenant, les effets de la colonisation, elles sont encore là. Ils nous ont divisés.
Non, mais c'est bien de les rappeler, Fatima. C'est bien de les rappeler. Et effectivement, l'histoire parle et il faut le traiter en permanence. Merci, Fatima, d'être intervenue.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup à vous, effectivement.
D'ailleurs, à propos de la radioactivité, moi, je veux saluer mon ami Mounir Satouri, l'eurodéputé écolo, qui essaie de monter vraiment un gros projet pour aller sur place en Algérie, pour faire des tests de radioactivité sur le radon, etc. Rappelle-toi, il y a un an et demi, il y avait eu une tempête de sable qui était montée en suspens, et puis lorsqu'il a plu ici, on a eu de l'eau sablée, et il y avait eu des traces de radioactivité, et ce sable venait du Sahara algérien. Et c'est vrai que ça serait bien que... j'ai entendu Madame Roselyne Bachelot dire... qu'on va aller lever les secrets défense, les archives concernant la guerre d'Algérie. Il faudra déclassifier toutes les archives, parce que autant il y a eu des indemnisations sur la Polynésie française.
Non, on s'est mis en retard, je suis désolé. Ouais. Mais vous avez raison de le rappeler. Hein. Je vous l'accorde, et c'est bien de nous avoir livré, effectivement, que le député, l'eurodéputé, justement, Mounir Satouri, est en train de travailler et plancher sur ce dossier. Ça, c'est une information. Le quoi de neuf ?
Les informés, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, c'est avec Faïza Belmohamed, journaliste indépendante. Bonsoir, ma chère Faïza.
Bonsoir, Adil.
Bon, vous avez décidé de consacrer votre carte blanche, votre signature, à la journée mondiale du hijab, justement. Et vous allez parler du collectif des hijabeuses. Eh bien, on vous écoute, ma chère Faïza.
Exactement, cher Adil. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui, enfin de vous présenter le collectif des hijabeuses. Mais surtout, j'ai voulu faire ce clin d'œil parce que vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du hijab. Vous savez, on n'a pas besoin de vous apprendre, le hijab, au-delà d'être un foulard, un voile, appelez-le comme vous voulez, c'est bien l'instrument qui menacerait la République et qui la ferait donc trembler tous les quatre matins. Chaque semaine, on a droit à une nouvelle aventure du hijab. Un coup, le hijab chez Decathlon, un coup, le hijab à l'Assemblée nationale, un coup, le hijab à la plage, et puis maintenant, le hijab dans le sport. En gros, le hijab... C'est quoi cette cloche?
Eh ben, vous avez le droit à une clochette. À chaque fois que vous dites des choses, vous avez le droit à une clochette.
D'accord.
C'est que pour tout le monde, hein. C'est comme ça pour tout le monde.
Ok. Disons que.
C'est quoi cette clochette? J'adore.
Vous m'avez déconcentré avec la cloche. Le hijab, c'est devenu Martine. Vous vous souvenez de Martine qui disait sa meilleure.
Très bien, bien sûr, bien sûr.
Alors là, bon, on est obligé d'en rire un petit peu, mais tellement c'est ridicule, mais en vérité, l'heure est grave. Le 19 janvier dernier, les sénateurs ont adopté un amendement qui vise à interdire le fillette dans les compétitions sportives. Mmh. En gros, on a d'un côté l'Afghanistan, l'Iran, toutes ces grandes démocraties où les filles ne peuvent pas faire de sport simplement parce que ce sont des filles. Et puis paradoxalement, en France, la patrie des droits de l'homme, où on les menace de plus pouvoir faire de sport sur la base de leur visibilité religieuse. Et hier, donc cet amendement, il a été discuté à l'Assemblée en commission paritaire, mais les députés et les sénateurs qui ont travaillé sur le sujet ne sont pas parvenus à un accord sur la question. Et finalement, cet amendement, il va revenir au Palais Bourbon le 9 février prochain. Et même si parfois on a tendance à être résigné un peu sur le sujet, tant on fait un peu face à des personnes qui sont acharnées, hein, je profite ce soir de mon temps de parole pour saluer l'action du collectif des hijabeuses, qui est constitué de sportives, qui demandent rien d'autre que le droit de pratiquer leur sport avec un foulard. Elles ont initié une pétition qui a déjà reçu presque 50 000 signatures, et elles ont lancé une campagne de mobilisation. Et elles nous donnent rendez-vous, ce sera mon mot de la fin parce que c'est vraiment important, le 9 février prochain, donc à Paris, pour une action concrète à l'heure où sera débattu l'amendement que j'estime être discriminatoire, en tout cas pour ma part. Alors j'en appelle aux auditeurs, soyez présents, c'est vraiment important pour nous, pour vous, pour la liberté et pour la démocratie.
Eh bien, merci pour votre carte blanche, la signature donc de Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. À mardi prochain,
j'avais
sans
une question
faute.
À Faïza.
Qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question?
Faïza, est-ce que toi-même tu portes le hijab?
Pas du tout.
Voilà. Bon. C'était important de le dire parce que souvent on pourrait caricaturer Faïza ou d'autres femmes qui prennent la parole pour les sans voix qu'on n'entend jamais.
Bon, et voilà. Dire, voilà. Elle vous a répondu, Philippe Nadjiboriaki.
Et donc c'est à quelle heure? C'est le 9? À quelle heure et à quel endroit?
Le 9 février, en fait les détails ils seront donnés un petit peu plus tard. Évidemment, elles ne veulent pas qu'on leur coupe l'air sur le pied, donc on le saura certainement 48 heures avant, mais je vous tiendrai tous au courant. Et vraiment, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'affaire des hijabeuses uniquement, c'est l'affaire de tous. Hein.
Eh bien, vous avez raison de le rappeler, c'est très juste. Merci Faïza Ben Mohamed, à mardi prochain.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Merci bien. On marque la seconde pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes. 01 53 48 3000, c'est aussi vous. On reviendra aussi notamment sur ces sujets. On va avancer avec les attaques haineuses et systématiques. Ça, c'est la déclaration que dénonce Gérard Darmanin en parlant de Jean-Luc Mélenchon contre la police. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de police, mais également aussi auteur et comédien aujourd'hui. Rappelons la pièce, justement.
Le testament d'un communard, donc sur une période très méconnue et particulièrement dramatique de notre histoire, de l'histoire de France, avec beaucoup de déportés en Nouvelle-Calédonie, où effectivement se sont retrouvés pas mal d'activistes déjà pro-indépendantistes algériens. Donc on est en 1871, donc effectivement il y avait déjà là-bas pas mal de remue-ménage. Que les choses soient claires, ça me permet de faire une petite parenthèse que je voudrais ouvrir et fermer très rapidement. Par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure sur la guerre d'Algérie, que les choses soient claires, je ne suis pas fait le défenseur du tout des guerres coloniales, qu'on va être très clair, qui sont pour moi des
absurdités. Non, je crois qu'on l'a tous compris.
Non, clairement.
On l'a toujours bien de préciser. Pour moi, c'est une aberration absolue ce qui s'est passé.
On l'a tous compris.
Que ce soit en Indochine déjà avant ou après en Algérie, est une, pour moi une incompréhension absurde, enfin hallucinée. Voilà, bon, ce qui s'est passé là-bas est totalement incompréhensible, en tout cas à mes yeux, quoi.
Il n'y a aucun problème. Il y avait
le face-à-face est aussi également avec Philippe Nadjiboriaki, le conseiller régional écolo. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police, eh bien, je poserai la question, est-ce qu'ils sont dignes d'un candidat à la présidentielle? Écoutons le court extrait, justement.
Tu veux la réponse tout de suite?
On peut. Mais écoutons d'abord le court extrait. Face à Baba, Cyril Hanouna, justement, Jean-Luc Mélenchon face à un policier.
Il y a 7000 baqueux, comme vous dites. Il y a 5000 policiers seulement dans la police judiciaire. Or, ce que nous vous demandons d'abord de régler, c'est le trafic des êtres humains qui s'est développé et multiplié par 4 dans ce pays. C'est le trafic de drogue qui s'est multiplié dans ce pays. C'est la circulation de 6 millions d'armes. Voilà de quoi vous êtes d'abord responsable. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. Et ceux qui parmi vous se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. Expulsés!
Ah bon, effectivement, alors les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police, est-ce qu'ils sont dignes ou pas d'un candidat?
C'est à moi que tu poses la question.
Oui, Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de police, oui.
Alors je vais être très clair, non.
Très clairs.
Ils sont très clairs, non, ils sont absolument pas dignes d'un candidat, pour plus d'une raison. D'abord, alors sur le constat qui est fait, ce qui est triste, c'est que ce qu'il décrit au départ, préalablement, sur l'échec de toutes ces...
C'est méprisant de dire, ouais, vous obéirez.
Non, mais c'est surtout qu'il s'adresse pas à la bonne personne.
Oui.
Voilà, c'est tout. Il s'adresse à un type qui est face à lui, qui est ou gardien de la paix, ou brigadier, ou major, je crois. Ouais. Mais Ce qu'il dénonce au départ, c'est un constat que nous-mêmes, au sein de certaines associations de police, on a fait depuis longtemps. C'est-à-dire l'échec de toutes les politiques sécuritaires depuis plus de 20 ans. Voilà, ça c'est une réalité. Bon, une fois qu'on a dit
mais
ça...
Bon, il attaque ce pauvre policier.
Non, mais une fois qu'on a dit ça, ce à quoi on a assisté, pour moi, est un sketch, quoi. Enfin, un mauvais sketch, un mauvais spectacle. L'agressivité, la haine qu'il déploie, elle est totalement contre-productive. Il aurait pu faire le même constat avec des propos beaucoup plus mesurés, hein, en faisant justement le bilan de ces politiques sécuritaires. Il peut contester l'emploi des effectifs de BAC, mais pas avec des termes aussi haineux, tout simplement. Parce qu'il y a des gens aussi qui font leur boulot de manière formidable. C'est pas que des salauds, faut arrêter. Et là, au final, ce qu'on en retire, c'est que bon, c'est un procès global. Ce qu'il fait, c'est aussi productif que de dire que tous les prêtres sont pédophiles, que tous les musulmans sont islamistes. Non mais voilà quoi, on est dans la généralité, on est dans le slogan. Pour moi, c'est beaucoup plus contre-productif qu'utile.
Philippe Ledjibouriaki, alors
il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des gens qui se croient supérieurs à la loi et d'autres qui sont dépositaires de l'autorité publique et qui en abusent de façon exécrable et qui font honte et qui jettent l'opprobre sur une profession, sur des femmes et des hommes qui donnent leur vie pour nous prêter assistance, des femmes et des hommes qui divorcent énormément parce que les conditions de travail sont insoutenables, les horaires en horaires décalés, les week-ends, les vacances, ça on le voit pas. On voit que l'été, par exemple, on pense que nos flics partent en vacances et en fin de compte, non, ils sont réquisitionnés pour aller faire du renfort sur nos plages et nos côtes. Donc moi, je veux rendre hommage à ces femmes et ces hommes, gendarmes, police, douane, sapeurs-pompiers, enfin, nos anges gardiens. Moi, je reste toujours admiratif de ces femmes et de ces hommes dans leur globalité et j'essaye surtout.
Alors pourquoi il balance justement il y a beaucoup de monde qui déteste la police. Il est temps de rendre alors, compte.
Vous avez
des propos, ça va loin quand même.
Vous avez remarqué qu'on est en campagne électorale et donc lorsque on parle à un public et à juste titre qui a été stigmatisé.
Tout le monde déteste la police. Vous
non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même dans nos quartiers, moi je le mets au défi. Moi, je viens de Brazza, j'ai passé 25 piges fermes là-bas. C'est pas vrai. On est content quand les unités de police interviennent pour nous prêter assistance. On est content quand ils viennent mettre hors d'état de nuire celles et ceux qui nous portent préjudice à tous et issus, y compris les racisés dont je fais partie. Mais il est évident que là-dedans, et je ne sais pas un motif d'excuse, que des gens qui sont sous pression sur des gouvernements différents avec des ordres, des contre-ordres qui n'ont pas de sens, et ben certains pètent les plombs, ça reste des êtres humains, ce n'est pas excusable, mais je dis qu'il y a certains qui ont un comportement inadmissible, et qu'on pendant longtemps il y a eu aussi, il faut le dire, un laisser-faire énorme, dû y compris surtout dans des communes dites de gauche pour essayer d'acheter la paix sociale, et ben il y en a qui sont sous pression et qui à un moment donné font l'irréparable. Et ça laisse des drames, ça laisse des drames des deux côtés, et y compris à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un proche. Moi, j'ai subi des contrôles au faciès, j'ai subi une fois de manière assez sévère une violence d'un policier qui a outrepassé ses droits. Et ouais, tu sais que tu es obligé de la fermer parce que tu auras jamais
entendre,
que vous avez.
J'aimerais entendre nos auditeurs justement. Que pensez-vous? Comment réagissez-vous face aux propos de Jean-Luc Mélenchon, donc face à un policier? Est-ce que ça vous êtes d'accord, pas d'accord? Comment vous réagissez évidemment à tout cela? 01 53 48 3000. Jean-Pierre Colombiès, dites-moi.
Dites-moi
pose la question.
Non, mais qu'il y ait des comportements qui déviants. Ben, moi, ça.
Ils doivent être sanctionnés. Ils sont souvent, malheureusement, pas assez par rapport à les JPN, etc.
Moi, je mets un bémol quand même parce qu'on oublie quand même, et ça faut le rappeler, que c'est l'une des professions, si ce n'est la profession la plus contrôlée. Dès qu'il y a un manquement dans l'exercice des missions, il existe une passerelle IGPN qui est très largement utilisée par les concitoyens. Les policiers sont contrôlés par le parquet. Il y a aussi un contrôle administratif. Il y a toute une chaîne de contrôle qui existe et peu de professions.
Ouais, mais c'est
compliqué, peu de professions, autant de contrôles. Après, sur les débordements, personne va le nier.
On l'a vu pendant la période des Gilets jaunes, sérieusement.
Ah, mais c'est autre chose.
J'étais reporter liveur, j'ai vu des choses juste inadmissibles et pas acceptables.
Non, mais ça, on est bien d'accord, mais on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que quand les gens disent.
Non, mais je parle aussi dans les quartiers populaires, je peux vous assurer qu'il y en a et qui viennent, ils se font plaisir. Il y a des vrais cow-boys. Et ça, c'est pour ça que moi, je suis pour la caméra embarquée tout le temps. C'est parce que ça protège tout le monde dans ce cas de figure. Et y compris, c'est pas normal.
On va écouter nos auditeurs.
Et ça devrait aussi engager la responsabilité de ceux qui agressent aussi.
Bien sûr, évidemment.
Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
01 53 48 3000, on va accueillir Kaïm de Paris. Bonsoir Kaïm.
Allô, bonsoir.
Bienvenue, bonsoir. On vous écoute, mon cher Caïm. Alors, votre point de vue.
Alors, moi, je vais vous dire, j'étais extrêmement content d'entendre Mélenchon.
Oui.
Enfin, un homme politique qui a dit que la police n'était pas au-dessus des lois. Mmh. Ça, c'est la première chose.
Yannick Jadot l'a dit aussi, mais c'est pas grave.
Moi, je ne l'avais pas entendu. Deuxièmement, il a dit que les bases ne seraient plus couvertes. D'accord ?
Oui.
Et, contrairement à Valérie Pécresse, lui, il n'a pas dit elle qui veut passer le Karcher dans les banlieues, et bien lui veut passer le Karcher dans la police. Et il a raison. Parce que moi, je vais vous dire, quand on a découvert les listes sur Facebook, sur je sais trop quoi, de la police qui était cachée, est-ce qu'on entendait ? Et c'est des gens et vous dites que ces gens-là nous protègent quand ils disent « J'attends avec jubilation le jour où je pourrai empaler sur mon flingue les bougnoules du 93 ».
Oui.
Et vous appelez ça, ils nous protègent, c'est des gens gardiens.
Caïm, sans vouloir te contredire, je veux vraiment peser les choses parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose de grave et pour eux et pour nos forces de l'ordre. Oui, nos forces, alors j'aime pas ce mot de forces de l'ordre, moi je préfère les appeler des anges gardiens, ils nous protègent au quotidien. Mais là-dedans,
ils protègent quelle catégorie de population ?
Je t'assure que quand tu t'engages dans la police nationale ou la gendarmerie, je t'assure, Caïm, quand tu t'engages, le premier engagement, il est vraiment de servir la population nationale.
On a un ancien commandant de la police.
Mais effectivement, et à juste titre, là-dedans, il y a des brebis galeuses qu'il faut débusquer.
Oui, mais il y en a beaucoup trop.
Alors, Caïm, attendez, Caïm. L'ancien commandant de police, qu'est-ce que vous répondez à Caïm ? Jean-Pierre Colombiès.
Il n'y a pas de honte à dire que la police doit obéir aux lois.
Bien sûr, évidemment.
Attendez, laissez parler Jean-Pierre Colombiès, s'il vous plaît.
Caïm.
Non, mais personne n'a dit que la police était supérieure aux lois. Personne. Voilà. Après, qu'on ait un ressenti particulier quand on a été victime d'un excès, comme ça a été dit tout à l'heure par Philippe, bien sûr que le ressenti, il est terrible. Il est terrible parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal qu'effectivement, quelqu'un qui a pour mission de protéger le plus grand nombre, dévie et commette une bavure. Faut appeler un chat. Maintenant, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas possible.
Exact.
Tout simplement.
Merci,
pas
Caïm.
Possible.
Merci, Caïm.
Merci Caïm
d'être intervenu.
Non, 30 secondes, s'il vous plaît.
Alors, 30 secondes, vraiment 30 secondes.
Bon. Écoutez, monsieur, vous trouvez ça normal, alors que toutes les preuves sont là dans l'affaire Chouviat, que le mec, il a été, pour moi, assassiné, que ça prenne autant de temps. Je suis sûr, si des jeunes s'étaient jetés sur un flic et l'avaient étouffé comme a été étouffé Chouviat, il y a longtemps qu'il croupirait en prison. Me dites pas le contraire, enfin.
Jean-Pierre Colombiès.
Très cher monsieur, jamais je prendrai la défense de quelqu'un qui a commis une faute lourde. Bon, en l'occurrence, je connais pas la procédure, je connais pas le dossier, donc je vais certainement pas me permettre de prononcer un avis qui serait pas conforme à l'arrêté du dossier, tout simplement. Après, il y a l'émotion, bien évidemment. Quelqu'un meurt lors d'une intervention de police, la logique est de dire que c'est pas normal, point barre. Après, il y a une enquête qui est en cours, il y a une instruction qui est en cours. S'il doit y avoir un jugement, il y en aura un, et personne, que ce soit un flic en exercice ou un magistrat, vous dira que c'est normal.
Voilà Caïm. Merci Caïm d'être intervenu. Merci. Effectivement, et je vous ai laissé longuement, même d'ailleurs, échanger avec nos débatteurs. Direction Grenoble. Amadou, bonsoir Amadou.
Bonjour à vos invités. Effectivement, les propos de Jean-Luc Mélenchon, je ne partage pas, parce qu'en tant que citoyen, il y a l'égalité du droit devant la loi. Je ne suis pas justicier de faire la justice, mais quand tu les renvoies de leur travail, leur famille, être citoyen, c'est ton tout. C'est pas seulement bénéficier de l'État. C'est pour cela qu'ils veulent devenir président de la République. Il faut qu'ils soient tolérants. Il faut pas généraliser. La loi, elle est là. Elle est là pour.
Ne le généralisons pas. Vous avez raison.
Voilà, ne généralisons pas.
Merci Amadou.
Bonne continuation à vous.
Merci. Ne le généralisons surtout pas. C'est vrai. Il me reste 3 minutes avant de rendre l'antenne, mais je voudrais qu'on parle de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, justement, dans Libération aujourd'hui. Vous savez, l'animateur touche pas à mon poste sur C8 accorde un temps d'antenne écrasant aux candidats d'extrême droite et à ses idées. 45% pour Zemmour, 22% pour Macron, Le Pen 7%, Hidalgo 3%, et autant dire pour le reste, pas grand-chose. Alors, le temps d'antenne consacré aux principaux candidats n'en touche pas à mon poste. La question se pose aujourd'hui. Effectivement, quel enjeu pour Cyril Hanouna et Cyril Hanouna, pourquoi accorde-t-il autant de temps à Éric Zemmour ?
Parce que ça fait de l'audimat, faut dire la vérité, que quand vous avez un Zemmour ou un Mélenchon, et quand il fait un baba Zemmour-Mélenchon, il pète l'audimat. Donc Cyril Hanouna, c'est un chef d'entreprise qui a une boutique à faire tourner, et donc lorsqu'il y a quelque chose qui marche, bah il le fait tourner. Si demain plus personne ne regarde les émissions où il y a Zemmour, il sera plus jamais invité nulle part. Donc
c'est exactement ce que je voulais dire.
Si ouais. J'étais un chef d'entreprise, je ferais pareil.
Jean-Pierre.
Non mais c'est tout à fait, c'est frappé du bon sens, quoi. Je veux dire, il fait de l'audimat avec qui on fait. Il est certain, je connais pas exactement quel était le niveau d'audience de Mélenchon, mais il a certainement éclaté les compteurs, surtout qu'en plus t'as mon client Mélenchon, donc il sait que ça va faire le buzz.
Ils ont fait une bonne audience.
Voilà. Bon, après Zemmour probablement aussi. Hein. Zemmour, c'est la nouvelle star. Hein. C'est le nouveau personnage qui arrive comme ça, que tout le monde a envie d'entendre, enfin que beaucoup ont envie d'entendre.
Y compris ceux qui le détestent. Hein.
Mais bien sûr. Non mais ça concourt au buzz. Ça concourt au buzz. Voilà. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Effectivement, il est libre aussi de son carnet. Je rappelle qu'il y a quand même un CSA dans ce pays. Alors peut-être que quelqu'un serait bien avisé de le saisir. Pour peu qu'on veuille une équité dans le temps de parole.
Exactement.
Juste une petite dernière précision, on a oublié quand même de préciser tout à l'heure qu'il y a 11 suicides dans la police nationale en un mois.
C'est énorme.
C'est un record.
Waouh.
C'est un record. Et ça soulève aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. On en a parlé hors antenne.
Juste avant de conclure, je voudrais dire quelque chose à tous nos auditeurs et auditrices. Ni hao ma, sous sa xia, xin yin kua le. C'est le nouvel an chinois. C'est l'année du tigre d'eau. Donc, à tous et à toutes, une très belle et heureuse année du tigre d'eau.
Et le chiffre que vous venez de nous dire, effectivement, il est...
Oui, il est symptomatique ouais. D'une institution qui ne va pas bien, tout simplement.
Et bonne année, effectivement.
Bonne année.
Bonne année. 19h52, merci à la réalisation. Merci à Jean-Pierre Colombiès. À très bientôt. Merci à Philippe Nedjibouriaki. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci,
merci,
régional.
Merci à vous.
Merci à la réalisation, à Giovanni. Vous allez retrouver tout de suite. Il est où, Bilal? Il a le temps de donner son Bilal Nedman. Eh ben viens, Bilal Nedman, il court dans les couloirs, Bilal.
Ah, il s'est passé quelque chose de fou avec le PSG.
Il passe sa vie à courir.
Quel est le programme, Bilal?
Bonsoir.
On va parler, bonsoir, messieurs. Et tous les
Alors, Time Sport,
de
quel est le menu?
Bon, on va parler un peu de Paris Saint-Germain face à Nice. Oh. Et oui, du Paris Saint-Germain qui perd face aux Aiglons.
Aïe.
C'est ça. Et après, on parlera aussi du comeback de Slimani, l'international algérien, du côté du Portugal. Et sans oublier, Adil, Aubameyang, du côté de Barça.
Voilà. Quel riche programme!
Ouais, c'est ça, ça va être sympa.
On a des news sur Mbappé ou pas?
Mbappé, on lui donne une clause de 50 millions, je crois.
Ouais. Sinon, non!
J'ai vu que l'entraîneur de Nice, là, il veut concourir pour Non, pour l'équipe de France?
Ouais, bah pourquoi pas?
Non? Je sais pas, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça.
Au PSG, il paraît.
Bon,
non,
c'est truc de fou.
Moi, je suis pas disponible.
Non, mais par contre, pour le transfert. Là, il part gratuit, alors, si j'ai bien compris, Mbappé.
Ah, si Mbappé part, il part gratuitement.
160 millions jetés par la fenêtre. Bravo, le Qatari. Voilà. Là, je suis dispo, en tout cas, s'ils veulent.
Oui, c'est ça. Bilal Nedman, 20h-21h. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.